Nous sommes de nouveau reconnaissants au Seigneur Dieu du fond du cœur pour le grand privilège dont nous jouissons d'être réunis en son nom sous l'écoute de sa parole. Afin d'entendre réellement les vraies paroles de Dieu. Je voudrais lire deux passages de l'Écriture avant de dire très brièvement ce qui peut être considéré comme un récit de voyage. Romains chapitre 15, le verset 20 à 21. Paul écrit ici, mais j'ai mis un point d'honneur à ne pas annoncer l'évangile là où le nom du Christ était déjà connu, car je n'ai pas voulu bâtir sur le terrain d'autrui, mais j'ai suivi la parole de l'Écriture, ceux à qui l'on n'a rien encore annoncé de lui, le verront. Et ceux qui n'ont pas encore été informés sur lui, le connaîtront. Et puis la parole parallèle, telle qu'elle est écrite dans le prophète Ésaïe, chapitre 52, le dernier verset, avant l'introduction du chapitre 53, qui décrit notre Seigneur dans ses souffrances et sa mort. Ésaïe 52, verset 15. Ésaïe 52, verset 15. De même, il émerveillera beaucoup de peuples. Et les rois fermeront la bouche à son sujet, car ce qu'on ne leur avait jamais raconté, ils le voient, et ce dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils le perçoivent. Sans exagérer, nous pouvons dire que le message divin est inconnu. Les traditions, les credos, les explications, les interprétations, tout cela peut être entendu et trouvé. Mais la véritable prédication, le véritable évangile, le cœur même du message divin, n'est pas parmi les peuples. Entrons maintenant dans la parole, et ce, comme nous l'avons lu ici dans Ésaïe 52, ce qu'on ne leur avait jamais raconté, ils le voient. Ce dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils le perçoivent. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. On pouvait le dire à l'époque de Jésus. Mais laissez-moi vous lire dans Luc 10, cette parole bien connue. Luc, chapitre 10, versets 22 à 24. Il est écrit ici, « Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. » C'est à cela. Et cela reste une révélation divine. L'un des jeunes gens a lu l'Ancien Testament et a dit, il est écrit ici, l'Éternel dit, je leur donnerai le salut par l'Éternel Dieu. Ainsi, un Seigneur parlait à un autre Seigneur. Il y avait donc déjà deux Jéhovah dans l'Ancien Testament. J'ai cru que le cheval me donnait un coup de pied en entendant cela. Il y a simplement des gens qui ne savent pas lire ou qui sont restés sans révélation. Je crois que c'est mieux, n'est-ce pas? Dieu ne peut-il pas dire de lui même ce qu'il veut? Si Dieu dit que je veux par moi, ou s'il dit je veux vous créer le salut par Dieu, n'a-t-il pas le droit de le faire? Dieu peut bien dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut et se manifester comme il veut. Mais à moins qu'il ne nous soit révélé, sinon nous ne le reconnaissons pas. Et c'est là que nous remarquons l'importance de ce que Frère Branham a souligné. Tout est fondé sur la révélation. Si Dieu ne se révèle pas à nous, nous ne voyons pas, nous ne voyons rien, nous n'entendons rien. Et je vous dis aussi pourquoi je dois le dire maintenant. En effet, dans le verset suivant, il y a une explication à ce sujet au verset 23. Luc 10, verset 23. Puis il se tourna vers les disciples, en particulier, et leur dit, « Bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez. » Qui peut voir? Qui peut entendre? Seulement celui à qui cela est révélé. Puis il se tourna vers les disciples, verset 3. À qui est-ce qu'il s'adresse-t-il en particulier aujourd'hui, maintenant? À qui s'adresse-t-il maintenant? À qui est-ce qu'il se tourne? À ses disciples. Qui sont ses disciples? Ceux qui ne discutent pas de lui, sur lui, qui ne le démontent pas, qui le suivent, qui le croient, qui lui font confiance, qui l'aiment de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous êtes mes disciples. Si vous faites ce que je vous ai commandé, les disciples sont des gens qui suivent. Ce sont des écoliers, des gens qui sont prêts à apprendre, à écouter, à apprendre. Les disciples sont des élèves prêts à apprendre, à accepter la révélation. Puis il se tourna vers les disciples en particulier et leur dit, le verset 23, « Bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez. » Le verset 24, « Car, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Vous savez que le Seigneur s'est également référé à la parole du prophète Ésaïe dans un autre passage, de vos yeux, avec des yeux qui voient, ils ne voient pas, avec des oreilles qui entendent, ils n'entendent pas, car Dieu leur endurcit le cœur. Notre propre intelligence, notre propre savoir nous endurcissent face aux paroles de Dieu et nous ferment à la révélation divine. Notre propre savoir et intelligence. Car Dieu ne mélangera rien avec l'humain, avec ce qui vient des hommes, avec la sagesse et intelligence humaine. Nous devons retirer l'humain, faire sortir tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient de nous, toutes les traditions, comme un vieux levain, une pâte acide, afin de devenir une pâte douce, d'honnêteté et de vérité. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Il relit le verset 22. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. La fin du verset 22, Luc 10. Et le Fils a dit, déjà tout triste dans Jean 14, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu me demandes encore, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Le slogan, le Christ de la Bible, ne sert à rien. Il doit être réellement le Christ de la Bible. un slogan ne suffit pas. Et s'il est le Christ de la Bible, ça veut dire qu'il est encore aujourd'hui le même. Et il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu révélé sous forme humaine. En lui, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement. Ça, c'est Jésus-Christ de la Bible. C'est le Jésus-Christ de la Bible. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu manifesté dans la chair. Toute la plénitude. Réjouissons-nous, nous aussi, d'avoir trouvé cette grâce devant Dieu, de recevoir la révélation divine, car la révélation ne peut pas être enseignée. La révélation est une affaire entre Dieu et toi. Elle doit être donnée, à moins qu'elle ne te soit révélée personnellement. Tu peux t'asseoir au pied de Gamaliel, ou au pied de Jésus, ou au pied d'un prophète, ou d'un apôtre. Combien ont entendu Jésus-Christ et ne l'ont toujours pas compris? Combien ont entendu les apôtres et n'ont toujours pas compris? Nous devons entendre Dieu. Nous devons faire l'expérience avec Dieu. Personnellement, nous devons l'expérimenter. Nous devons trouver les traces de Dieu par la révélation et voir comment il s'est révélé, dans quel but il s'est révélé. Nous devons le connaître, lui et son plan pour l'humanité. Tout le monde lit les Saintes Écritures à cette époque. Qui ne les a pas lues? Le grand sacrificateur Caïphe, il lisait la même Bible que Nicodème, que Gamaliel, que tous les autres dans toutes les synagogues. Et soudain, notre Seigneur prend la Bible et donc le livre et, ou bien le rouleau et lit aussi dans le prophète Ésaïe, le même rouleau qu'il lisait, n'est-ce pas, au chapitre 61. Et alors, vous dites, où est-il écrit dans Luc, oui, Luc chapitre 4, verset 21. Alors il commença à leur parler en disant, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Il en va de même aujourd'hui, comme autrefois, tous ont la Bible, et la plupart ont aussi le grec à leur disposition. Je ne dis pas cela par critique, mais là aussi, il y a certaines choses comme par exemple le mot « éon » qui se réfère à Dieu et qui ne devrait jamais y apparaître. Mais c'est traduit du grec. Et les gens pensent que c'est l'original. Tout ce qui est humain, qui a déjà commencé ou qui sera dans un certain laps de temps, c'est un éon, éon. Mais quand il est écrit dans la Bible grecque et que je vous donne une vie éonique, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas reçu une vie pour un âge, pour un éon. J'ai reçu une vie divine éternelle qui n'a jamais commencé et qui ne s'arrêtera jamais. Mais comme je l'ai dit, il faut l'inspiration, l'illumination et l'onction du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, pour pouvoir lire la pensée de Dieu, même en lisant la Bible, et comprendre que là, ça a été mal traduit. La lettre seule en aura déjà tué plus d'un et en tuera probablement encore beaucoup. Mais l'Esprit donne la vie. L'Esprit conduit dans les contextes de l'ensemble de la parole. Et d'ailleurs, sur ce point aussi, nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère de Frère Branham. Car s'il ne l'avait pas dit aussi clairement, je ne le saurais probablement pas non plus. Aujourd'hui, Dieu a tout de même dû utiliser quelqu'un pour nous mettre le nez sur ces choses, afin que nous sachions de quoi il s'agit. Permettez-moi de le souligner à nouveau. Lorsque Saül de Tarse était assis au pied d'un Gamaliel, alors que la grande action de Dieu se déroulait là, lui, il lisait et étudiait la Bible, etc. Et ainsi de suite. Mais plus tard, le même homme a lu dans la même Bible, mais il vit quelque chose de très différent de ce qu'il avait vu auparavant. Il avait fait une rencontre avec le Seigneur, avec la lumière. Il a été illuminé, éclairé. Il a été arrêté dans sa propre voie pour se repentir, pour revenir à Dieu, pour prendre le chemin de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit par la suite, avec une si belle dignité, « Je tiens pour de la boue tout ce que j'ai considéré comme précieux auparavant. » Avant, le savoir et le savoir-faire, le pouvoir, l'autorité des scribes et des chefs pour mettre en prison tous ceux qui suivaient le Christ. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et même lorsque le Seigneur a envoyé cet homme, quel était son nom encore une fois, rapidement, qui devait prier pour lui, qui était-ce? Ananias. Qui dit, « Seigneur, je sais pourtant tout le mal que cet homme a fait. » Il dit, « Je l'ai rencontré. Prends courage. Il y a eu un changement avec cet homme. Va-t'en, car voici qu'il prie. » Bien-aimé, cela doit arriver à chaque scribe. Sinon, il reste dans ses propres ténèbres et trébuche sur ses propres obstacles, se prend les pieds dans le tapis et s'empêtre comme il est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 8. C'est écrit là. Vous pouvez le lire dans les Saintes Écritures. Les gens trébuchent, ils s'empêtrent. Voilà ici Ésaïe chapitre 8 du verset 13. C'est d'ailleurs un passage magnifique pour nous faire savoir qui était la pierre d'achoppement. Ésaïe 8 du verset 13. Non, l'Éternel des armées, vous le tiendrez pour saint. Il sera votre crainte. Il sera votre terreur. Alors, il deviendra une occasion de sanctification, une pierre d'achoppement et un rocher de trébuchement pour les deux maisons d'Israël. Un piège et une embûche pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés, épris. Il n'y a pas de sujet sur lequel les hommes s'égarent, se confondent et s'empêtrent autant que sur le sujet de la divinité. Car ils mettent effectivement la charrue avant les bœufs, pour le dire en allemand comme Luther. Il ne commence pas là où Dieu a commencé, c'est-à-dire en suivant les traces de Dieu depuis le début, de suivre tout l'Ancien Testament, de la prophétie biblique, toutes les annonces jusqu'à ce que toutes les paroles se soient incarnées, soient devenues chères. Il commence au fond, tout au fond, et veulent aller quelque part. Ce n'est pas possible. Il faut commencer là où Dieu a commencé et s'arrêter là où il s'arrête. Les gens s'empêtrent effectivement tous. Je crois pouvoir dire, non seulement dans la foi, mais qu'il en est de même pour cela. Nous pouvons chanter à juste titre, « Tu t'es révélé à moi ». Ô Seigneur, dans une grande grâce. Ici, le Seigneur des armées doit être tenu saint pour nous, qu'il soit notre crainte, qu'il soit notre terreur, car il deviendra une occasion de sanctification et une pierre d'achoppement. Pour les uns, pour la sanctification, pour la rédemption, comme le dit Paul, Christ a été fait pour nous par Dieu, pour la sanctification Il a été fait pour nous, sanctification, rédemption, sagesse. Oui, si l'on voulait poursuivre le registre, il est devenu pour nous tout en tous. Mais ici, il devient aussi une pierre d'achoppement. Le Seigneur des armées devient aussi une pierre d'achoppement et un rocher de trébuchement. Lui, le rocher. Cette révélation divine, non Pierre, mais la révélation divine en Jésus-Christ. C'est pourtant sur cette révélation que toute l'Église est construite, fondée et bâtie. Une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher les deux. Israël et les habitants de Jérusalem, qui étaient la tribu de Juda. Que s'est-il passé? Eux aussi ont lu sans révélation divine. Si seulement ils avaient écouté l'homme envoyé par Dieu, ils étaient imprégnés du message divin pour parvenir à la connaissance. Il y a suffisamment de croyants qui nous reprochent et disent « Le Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin de prophète et d'un prophète. » Ils auraient pu aussi le dire à l'époque de Moïse, à l'époque d'Élie, à l'époque de Jean-Baptiste, à l'époque de Paul. Ils auraient pu le dire à maintes reprises. Et cela doit être clairement souligné ici. Nous ne croyons que parce que les Écritures l'ont prédit. Nous ne croyons pas parce que nous le voulons ou parce que nous l'aurions imaginé. Nous croyons parce que c'est resté une promesse divine dans la parole de Dieu. Et si l'on prétend ici, aujourd'hui, qu'en ces jours où la prophétie biblique trouvait son accomplissement, un message divin était délivré et que celui qui ne s'y est pas plié, il est écrit qu'il a rejeté pour sa personne le conseil de Dieu et a ainsi continué à suivre ses propres voies. C'est écrit quelque part dans Luc, dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, quel chapitre c'était? Oui, exactement, je regarde déjà sur Luc 7, verset 29. Luc, chapitre 7, verset 29. Et tout le peuple qui l'entendait, même les douaniers, donc les publicains, firent la volonté de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le conseil de Dieu de salut pour leur personne en ne se faisant pas baptiser par lui. Quelqu'un pensera à haute voix, oui, le conseil de Dieu est-il donc lié à un seul homme qui annonce la parole? Oh oui! Si c'est un homme envoyé de Dieu et qui parle sous ordre de Dieu, par ordre de Dieu, cela engage tous ceux et est contraignant à tous ceux qui veulent subsister devant Dieu. À moins qu'ils ne fassent de même dans leur connaissance, dans leur élévation, et qu'ils ne rejettent le conseil de salut de Dieu pour leurs personnes aujourd'hui. Qui se souvient des paroles de notre Seigneur qu'il a alors adressées comme un reproche précisément aux responsables? Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous empêchez tous ceux qui veulent entrer d'entrer. Malheur à vous. Et puis sont venus les sept malheurs exprimés dans Matthieu, chapitre 23. Aujourd'hui, il y a des érudits intelligents qui disent que Branham est là, ce Branham-là avec son baptême au nom de Jésus-Christ. Ha! On peut aussi s'en passer et aller au ciel. Je nous demande à nous et au monde entier, est-ce l'enseignement de Branham ou celui des apôtres? Qu'est-ce que c'est? Est-ce l'enseignement des apôtres dont il est écrit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Éphésiens 2, verset 20. Regardez, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes ont rejeté le conseil de salut de Dieu pour leur personne. Mais ils ont chanté dans le temple. Loué soit le Seigneur. Et avec tambour et trompette, tout est resté comme avant. Sans qu'ils aient reconnu dans leur génération le jour de la visitation divine. Le président là à Cape Canaveral, c'est dommage qu'il ne se soit pas trouvé directement sur la rampe de lancement. Mais il a fait beaucoup d'efforts pour moi le dernier soir. Et il a dit, vous savez, nous pourrions tellement avoir besoin de vous. Et puis, bien sûr, quelles sont les conditions? Et en deuxième lieu, bien sûr, qu'il y a toujours toute une série de conditions, n'est-ce pas? C'était la formule de la Trinité. J'ai simplement dit, ne vous fâchez pas, mais je ne pourrai jamais approuver une telle chose. Puis il m'a regardé à nouveau et s'est dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, j'ai dû lui dire, je lui ai dit, écoutez, vous avez parlé ainsi contre Rome. Mais vous avez adopté la doctrine romaine vous-même. Et maintenant, vous voulez que je vous adopte aussi, vous? Je pense que nous sommes sortis. Je pensais que nous étions sortis de Rome. C'est ce que vous avez dit. Je ne veux pas en dire plus. Beaucoup sont sortis. Mais ils ont emporté avec eux une grande quantité de l'ancien, des traditions, des choses anciennes. Beaucoup de levain, de pâte, acidité. Tout ce que chacun pouvait porter, n'est-ce pas? Il a emporté. Il est sorti avec. Nous ne critiquons pas. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous n'avons pas rejeté l'ordre du salut. Nous nous sommes fait baptiser selon la Bible. Aujourd'hui, nous avons reconnu avec reconnaissance que nous vivons maintenant à la fin du temps de grâce et que Dieu remet tout en place. En ordre, rétablit toutes choses, qu'il a envoyé pour cela le prophète Élie, pour que les cœurs des enfants de Dieu retournent le cœur des pères apostoliques. Et c'est pourquoi nous ne revenons pas seulement à mi-chemin, nous ne revenons pas à mi-chemin. Nous allons jusqu'au bout, nous retournons jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Nous allons jusqu'à l'origine, jusqu'au commencement. Notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas parlé du commencement? Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a dit dans Matthieu 19, au commencement, il n'était pas ainsi. Nous devons donc d'abord savoir comment c'était au commencement pour pouvoir ensuite y retourner, pour savoir ensuite comment cela doit être aujourd'hui à la fin. Oh, merci à Dieu pour la grâce indescriptible qui nous a été accordée. Et croyez-moi, cela sera dans sa volonté que les vérités divines soient encore annoncées sans s'inimer. Non pas que nous devions frapper à une porte quelque part et demander de pouvoir parler quelques minutes dans la réunion. Ce seront les gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations qui n'écouteront plus les scribes et les pharisiens, mais à qui Dieu fera la grâce d'entendre ce que l'Esprit a dit aux églises d'écouter ce que les apôtres et les prophètes ont entendu et de voir ce qu'ils ont vu et de baptiser comme on baptisait au commencement. Dieu aura un peuple et je fais partie de ceux qui se réjouissent simplement du fond du cœur de ce revirement, de ce rebondissement en Europe de l'Est. Je ne peux que remercier Dieu pour cela. Et en lien avec cela, ce qui m'intéresse principalement, c'est que la prédication reçoive son importance. Que de choses s'améliorent et deviennent plus faciles et plus agréables. Dieu en soit remercié. Mais ce printemps ne peut pas se résumer à cela. Il faut labourer, semer et récolter. Et Dieu nous a donné des semences en abondance. La semence est en effet sa parole. C'est écrit quelque part dans l'évangile de Luc, comme dans Matthieu et dans les autres évangiles. Ici, dans Luc 7, au verset 11, c'est plutôt Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parole, cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Je suis sûr que vous avez tous entendu le discours d'adieu à Hanovre lorsque notre chancelier fédéral a déclaré avec satisfaction. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible pour personne. Maintenant, les traités de Rome sont prêts. Et j'ai entendu cela avec un son à la radio allemande. Et j'ai aussi entendu les premiers mots de l'homme grec. Et il a dit, nous allons faire avancer deux choses. Premièrement, l'affaire de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Et ensuite, l'ouverture de l'ensemble du marché intérieur. Ce n'est pas un miracle. Apocalypse 17, chapitre 17. Et, chapitre 17, verset 17, pardon. Et vous devez, et ils vont devoir soumettre leur pouvoir à la disposition de la bête et faire cause commune jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous n'avons jamais fait de politique et nous n'en ferons jamais. Mais en revanche, Dieu nous a ouvert les yeux sur l'état d'avancement de la prophétie biblique. Quelqu'un pourrait maintenant s'inquiéter du nouveau schisme. À oublier donc toutes ces manœuvres de diversion. La prostituée chevauche la bête et c'est tout. Elle a tout entre les mains et l'enfer de toute façon. Après tout, il est écrit que l'enfer forme son cortège. Certains ont été bouleversés et se disent, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne se passera. Il achèvera sa marche triomphale et fera ce qui lui a été demandé de faire. Et c'est tout. Tout le reste s'arrête. S'arrête, se relève et n'existe plus. Nous tombe, se relève et n'existe plus. Nous ne nous laisserons jamais distraire par des manœuvres de diversion. Nous sommes là pour concentrer notre attention sur l'essentiel. D'une part, Christ et son œuvre et sa cause. Et d'autre part, l'Antichrist et son projet. Ce sont les deux choses qui sont prophétiquement de la plus grande actualité aujourd'hui. Un orateur de radio depuis presque 60 ans qui se croit aussi intelligent que tous les autres réunis, il a effectivement écrit au sujet de Gorbatchev qui a reçu une blessure à la naissance, à savoir la marque, il dit que ce serait la marque de la bête sur son front. Et dizaines de milliers de personnes lisent cela et pensent qu'ils ont désormais la sagesse, non seulement avec des cuillères, mais aussi avec une louche. S'ils l'ont rempli directement, ils ont pris la sagesse et ne savent même pas qu'elle était pleine de trous à la bouche, à la louche. Et ce qu'ils ont voulu puiser n'était que du vin et rien d'autre qu'une soupe bon marché. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous avons, je le souligne volontairement plusieurs fois aujourd'hui, reconnu ces choses. Je n'en avais pas du tout l'intention de parler de ces choses, mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons pu reconnaître tout cela. Et cela uniquement parce que nous avons reconnu, le ministère que Dieu avait prévu pour notre temps. Nous n'avons pas parlé à Dieu. Nous avons laissé Dieu nous parler. La plupart de ceux qui parlent et ne laissent absolument pas Dieu s'exprimer. Dieu, merci. Il en a été autrement pour nous. Nous l'avons laissé parler et nous avons pu l'entendre. Il y aurait beaucoup à dire encore. Remercions Dieu ce soir pour sa miséricorde et sa fidélité, pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir vivre en cette époque si mouvementée, si turbulente où tant de choses se passent, mais aussi d'avoir reçu de Dieu une orientation prophétique très clair. En êtes-vous reconnaissant? Avoir reçu de Dieu une orientation prophétique très claire. Très claire. Et par quoi? Par la parole prophétique qui brille comme une lumière dans un lieu obscur. Ici, personne n'a enseigné. Ici, nous avons été enseignés par Dieu. Par la parole, par sa parole, par l'esprit, qui nous a révélé la parole. N'est-ce pas? Les amens sont très faibles. Dieu le sait. Nous lui devons beaucoup de remerciements pour ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas le bien qu'il t'a fait, qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes infirmités, qui délivre ta vie de la corruption, de la mort, qui t'a couronné de grâce et qui te couronne de grâce et de miséricorde. Voilà ce que Dieu a fait en toi et en moi. Et même au-delà, il nous a mis à son école, a fait de nous des silencieux en sa présence. Nous n'écoutons plus d'autres voix. C'est fini. Nous entendons seulement, écoutons seulement celui qui seul est la vérité dans laquelle pourrait, dans lequel, lui qui pouvait dire, sanctifie-les dans ta parole, dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et cette parole nous est devenue précieuse et chère. Pour cela aussi, nous sommes reconnaissants à notre Dieu du fond du cœur. Loué soit son nom éternellement. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être chanterons-nous encore le cœur tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Pas ma force, mais la tienne. Ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Fermons les yeux, mais ouvrons nos cœurs et chantons-le encore une fois. Tel que je suis, que cela soit ainsi. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave du péché, me lave, me purifie du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alors que nous avons incliné la tête, je voudrais juste lire un passage du magnifique cantique qui me tenait tant à cœur avant la réunion. Seigneur, nous louons ta grâce qui nous a entièrement gagnés à toi, nous sauvant, nous purifiant et nous remplissant et qui nous rend utile à toi. Que ce ne soit que des vases, maître saint, mais rempli, que nous soyons que des vases, maître saint, saint maître, mais rempli de ta puissance. Que pour nous et à travers nous coule, vive ton esprit qui crée toutes choses nouvelles. Père céleste, tu nous vois à cet endroit comme un petit troupeau réparti sur la masse. Il disparaît, s'élève et se dissout dans le néant. Mais tu parles dans ta parole. Ô Seigneur, il a plu à mon Père de donner le royaume au petit troupeau. Et tu parles au petit troupeau. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Seigneur, nous louons ta grâce qui nous a entièrement gagnés pour toi, nous sauvant, nous purifiant et nous remplissant et nous rendant utiles pour toi. Nous voici, Dieu fidèle. Nous te remercions ensemble pour l'œuvre de la rédemption accompli à Golgotha. Nous te remercions pour le sang saint, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé là-bas, avec lequel tu es entré dans le sanctuaire céleste en tant que grand souverain sacrificateur, afin d'intercéder pour nous en tant qu'intercesseur, médiateur, sur la base de ce sang sacré. Fais-le, très cher agneau de Dieu, en tant que intercesseur, avocat, tu nous as acquittés, nous sommes purs, nous sommes justifiés. Tu es devenu pour nous sanctification. Seigneur des armées est ton nom, Éternel des armées, et il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Le royaume nous demeurera. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme d'avoir fait briller au milieu des ténèbres la lumière de ta parole révélée. Et tu dis encore aujourd'hui, celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur fidèle, c'est à cela que nous reconnaissons que nous te suivons en réalité. Dans ta lumière, nous voyons la lumière et ta parole est devenue une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur bien-aimé, nous pouvons aussi te remercier aujourd'hui pour le ministère de ton serviteur et prophète, notre bien-aimé frère Branham. Comme nous te sommes reconnaissants de tout cœur pour tous les prophètes et apôtres. Par eux, tu nous as laissé un véritable témoignage sur terre. Tu as parlé et agi par eux en parfaite harmonie à travers l'Ancien et le Nouveau Testament pendant tous les âges. Que à toi, le Dieu Tout-Puissant, à toi, le Dieu Tout-Puissant, soit de tout notre cœur la reconnaissance. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.